Modèle Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mondial Sport avec au menu ce soir beaucoup de football africain. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021, 11 matchs aujourd'hui. L'Euro 2020, le Portugal s'est qualifié pendant que l'équipe de France mène actuellement en Albanie. Une page tennis également avec le Masters de Londres remporté par le jeune grec Stefanos Tsitsipas. La nouvelle Coupe Davis qui débute demain à Madrid et le bilan du Tour cycliste du Sénégal qui vient de s'achever. Mondial Sport avec Fabrice Violet. À la réalisation, coup d'envoi. Le football africain, pour commencer avec vous, Thomas de Saint-Léger. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde.
Vous nous avez parlé hier de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Aujourd'hui, eh bien, déjà, c'était le début de la deuxième et ça commençait fort. Donc, on le disait, 11 rencontres au programme.
La dernière s'est achevée il y a une grosse demi-heure. Le Gabon a battu l'Angola 2-1. Boupenza et Bouanga ont marqué pour les Panthères. Réduction de l'écart signé Yano en fin de rencontre. L'autre match de ce groupe D, Gambie, République démocratique du Congo, aura lieu demain.
Et pour le reste, pas de grande surprise. Aujourd'hui, les favoris ont tenu leur rang à l'image du Mali dans le groupe A.
Le Mali plus fort tout simplement que le Tchad. 2-0 à N'Djamena, 2 buts inscrits en première période par Moussa Djenepo et Mohamed Camara. Les Aigles effacent la petite déception née du nul de partout concédé à domicile contre la Guinée en milieu de semaine. On écoute un sélectionneur satisfait, Mohamed Magasuba.
On est obligé de cravacher dur parce que nous avons des ambitions et des objectifs à atteindre. Il faut que nous donnons satisfaction à notre peuple. On a exigé à chaque joueur d'élever son niveau d'engagement individuel et finalement ça nous a permis de faire un collectif qui va au charbon pour se battre ensemble et en fait faire une très bonne gestion de la balle aussi. Je crois que tout ce qu'on a demandé comme principe ont été animés avec beaucoup d'austérité.
Mohamed Magasuba satisfait. Dans l'autre camp, Emmanuel Trégoat mesure, lui, l'écart qui sépare encore son équipe des meilleures formations du continent.
On joue le Mali, qui est une des meilleures équipes africaines. Les forces en présence étaient déséquilibrées. Nous, on est vraiment le petit poussé, on est en apprentissage. Toute la première mi-temps, mes joueurs ont regardé les Maliens jouer. En deuxième mi-temps, on a essayé de faire un peu plus. On a fait 0-0 sur la deuxième mi-temps. C'est pas une satisfaction, mais voilà, on était devant une très forte équipe malienne. Tous les joueurs jouent dans les meilleurs clubs européens. Nous, on a du mal à avoir un championnat local. Donc, il faut nous laisser le temps. Là, on a 8 mois pour se préparer pour aller en Guinée. Donc, suite à ça, on va essayer de, si on a le temps de travailler, de progresser.
Manuel Trégoat, tout comme Mohamed Magasuba juste avant, au micro de Saint-Yves de Zabé Chouadang. Le Mali occupe pour l'instant la tête du groupe A, égalité avec la Guinée qui s'est imposée 2-0 également contre la Namibie. But d'Issiaga Silla et José Kanté. Réaction du défenseur du Sili National, Julien Janvier.
Un match difficile qui aurait pu même se transformer en piège. Si on n'était pas resté concentré, on savait qu'ils avaient gagné les derniers matchs, donc ils sont arrivés ici avec de la confiance forcément. Maintenant nous, voilà, on a fait un bon match nul au Mali et on voulait bonifier ce beau point pris au Mali pour aujourd'hui face à la Namibie. Et voilà, ça a été bien joué. Et encore une fois, je félicite tout le monde parce que ça a été un bon travail de la part de tout le monde.
Julien Janvier avec Thierno Noya Diallo.
Après le groupe A, le B, comme Burkina Faso, les étalons qui ont décroché cet après-midi leur première victoire dans ces éliminatoires.
Elle est importante. Hein. 4 jours après les 2 points laissés en route à Ouagadougou contre l'Ouganda, il y avait eu 0-0. Cette fois, Aristide Bansé et ses coéquipiers ont fait le job, comme on dit. 2 buts pour l'inusable attaquant et un succès 2-1 à Khartoum contre le Soudan du Sud. Jonathan Pitroipa a lui réussi 2 passes décisives. Sa récompense, eh bien, un passage au micro de Gabriel Barrois.
On était venu ici pour faire un résultat, surtout gagner ce match parce que voilà, le match nul à Ouaga, fallait le bonifier avec une victoire. Et on l'a fait dans des conditions difficiles parce que le terrain n'était pas vraiment praticable. Moi, je me demande même comment la CAF a pu homologuer un terrain pareil. Mais bon, l'essentiel, on était concentré, on a montré qu'on est en train de progresser. C'est vrai qu'avec le match nul à Ouaga, on est un peu douté de l'équipe. Mais moi, je pense que voilà, on a montré déjà que c'était le premier match. On était en train de préparer les matchs à venir parce qu'on a joué contre une équipe ougandaise qui était vraiment costaud et nous ça nous a permis de mieux préparer le second match et en essayant de corriger nos lacunes.
Jonathan Pi, 3 pas et le Burkina, deuxième du groupe B, derrière l'Ouganda, vainqueur 2-0 du Malawi.
De son côté, le Sénégal enchaîne dans son groupe I, deuxième match, deuxième victoire.
Victoire logique en Eswatini, 4-1 avec un triplé de Famara Diédiou. Sur le papier, c'était une formalité. Sur le terrain, c'était un peu plus compliqué. Les Lions de la Teranga ont attendu la deuxième période pour faire la différence. Leur sélectionneur Aliou Cissé ne leur en tient pas rigueur.
Depuis 4 ans, je crois que nous voyageons dans des places vraiment très difficiles. Il y a des voyages, il y a des très longs voyages. Nous jouons dans des conditions compliquées. C'est pour cela que je veux vraiment féliciter mes joueurs de leur mentalité, de leur détermination et surtout de leur engagement pour le maillot de l'équipe nationale. Je le répète, je le dis encore, en Afrique, il n'y a aucun match qui est facile. Surtout quand vous vous appelez le Sénégal, vous êtes attendu de partout. Donc aujourd'hui, le match nous l'a prouvé. Il suffit juste d'être un peu moins dans l'agressivité, un peu moins dans l'engagement. Ça devient compliqué. Mais cette équipe-là gagne en maturité. Aujourd'hui, elle est prête à voyager partout et surtout d'être présente dans ces moments, même dans des conditions difficiles.
Le Sénégal, Aliou Cissé, qui avait battu le Congo lors de la première journée. Les Diables Rouges, qui se sont bien repris aujourd'hui.
Très bien repris même. Victoire nette et sans bavure aux dépens de la Guinée-Bissau, 3-0. Et pourtant, les Congolais étaient privés de leur buteur vedette Thiévi Bifouma. Comment le sélectionneur Valdo a-t-il réussi à transcender son groupe? Le Brésilien nous donne sa recette.
J'ai dit les joueurs, si nous on reste soudés, si nous avons l'amour, l'amitié, on peut faire quelque chose, parce que là, ça va passer dans la tête et dans le corps. On va souffrir, mais on va jouer pour un ballon ou deux ballons. Si vous êtes efficace, on gagne. L'équipe de Guinée-Bissau, je l'ai répété, elle est bonne, mais vous êtes plus fort. Et aujourd'hui, vraiment, moi, ce que j'ai pour faire, c'est féliciter mes joueurs. On sommes relancés dans la course, on sommes le deuxième de la poule. On va bien préparer les deux matchs contre Swaziland. Et là, je pense, si nous, on a réussi à faire des bons résultats, aller-retour, on va voir ce que ça va donner de Guinée-Bissau et Sénégal pour faire la compte.
La positive attitude de Valdo au micro de Jean Ruffin, l'Ouemba.
Première victoire pour le Congo, première aussi pour le Bénin dans le groupe L.
Les écureuils devaient réagir après leur défaite au Nigeria. C'est chose faite, succès 1-0 contre la modeste Sierra Leone grâce à Jodel Dossou. C'est le minimum, mais ça suffit pour cette fois, nous dit en résumé le sélectionneur béninois Michel Dussuyer.
On peut toujours mieux faire, mais vous savez comme moi, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est toujours des batailles, quoi. C'est toujours difficile. Et jouer à cette horaire, ça ne nous aide pas non plus. Il y a des matchs comme ça où on ne gagne pas avec la manière, mais l'essentiel, c'est de gagner, quoi. De prendre les 3 points. Parce qu'à domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Satisfaction d'avoir pris les 3 points.
Michel Dussuyer avec Félix Oundé-Péripé dans ce même groupe. Le Nigeria a réussi la passe de 2 en gagnant 4-2 au Lesotho. Enfin, 1-0 pour l'Afrique du Sud contre le Soudan et pour le Cameroun, qualifié d'office, on le rappelle, sur le terrain du Rwanda.
Suite de cette journée demain, 6 matchs au programme avec entre autres Gambie-RDC, on en a parlé, et les deux affiches du groupe G.
À savoir Comores-Égypte et Kenya-Togo, les Togolais déjà dans le dur après leur défaite initiale 1-0 à domicile contre les Comores, un adversaire qu'ils avaient pourtant battu en tour préliminaire des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, l'une des rares éclaircies dans un ciel bien gris pour les éperviers, absents déjà de la dernière CAN. Ça commence à faire beaucoup, comme l'an éclou.
Les affaires des éperviers sont plutôt mal engagées dans ces éliminatoires de la CAN 2021 après cette défaite inattendue contre les Comores. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux les Togolais à s'interroger sur cette contre-performance. Pour ce supporter, les joueurs n'étaient pas suffisamment motivés.
J'ai été très déçu par rapport à la prestation de toute l'équipe, surtout certains cadres. Ils ne se sont pas donnés à 100% comme on l'avait vu par rapport à l'éliminatoire au Mondial et où on avait battu le Comores. La dernière fois, on ne sentait pas l'envie de gagner. L'envie de gagner parce qu'on a eu 2 ou 3 fois le poteau. Mais la réaction d'aller chercher la balle pour la mettre au fond n'y était pas.
Déjà décrié, Claude Leroy est pointé du doigt par le public, tout comme par les journalistes sportifs.
Je suis découragé par le style de notre coach Claude Leroy, raison pour laquelle je ne supporte plus notre équipe.
Fondamentalement, c'est le manque de résultats. Il a été recruté pour une mission précise, qualifier les éperviers pour la CAN passée. Là. Il n'a pas atteint son objectif.
Ces choix sont souvent critiqués parce qu'en réalité, nous sommes des journalistes, nous suivons également nos joueurs dans leurs différents clubs, mais la plupart du temps, on dirait qu'il a un choix stéréotypé. Qu'il sort à chaque fois, le résultat ne suit pas, mais il continue sur sa méthode de travail qui ne permet pas à l'équipe togolaise d'évoluer comme cela se doit.
Seule une victoire contre le Kenya pourrait réconcilier le public et son équipe.
Ils sont mal entrés dans la compétition, donc il va falloir se ressaisir pour faire un bon match face au Kenya. La victoire à tout prix pour se relancer dans la compétition.
Claude Leroy en est bien conscient.
Le Kenya fait match nul en Égypte, ça peut remettre beaucoup de choses en perspective, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on va absolument rien lâcher.
Ce lundi, ils seront des milliers de Togolais à croiser les doigts pour que le miracle s'accomplisse. Comme l'a écloulomé RFI.
Et vous l'avez entendu dans ce reportage, Claude Leroy, très critiqué, mais toujours accroché à son siège. Je ne démissionnerai pas, a répété le technicien français en conférence de presse. Le match au Kenya semble quand même décisif. Pour lui, toujours concernant le programme de demain, notez que les champions d'Afrique algériens joueront au Botswana.
Merci Thomas de Saint-Léger. Voilà pour le football africain. On vous retrouve tout à l'heure pour parler cyclisme. Le Portugal défendra son titre à l'Euro 2020. La bande à Cristiano Ronaldo a décroché tout à l'heure sa qualification lors de la dernière journée en allant s'imposer 2-0 au Luxembourg. La star en a profité pour inscrire le 99e but en sélection de sa carrière. L'équipe portugaise est arrivée deuxième de son groupe, loin derrière l'Ukraine, qui est allée arracher le nul de partout en Serbie. Autre résultat aujourd'hui, la victoire de l'Angleterre au Kosovo 4-0 et celle de la Bulgarie contre la République tchèque 1-0. Dans ce groupe, anglais et tchèque étaient déjà qualifiés. Idem pour l'équipe de France qui vient de terminer son match à l'instant contre l'Albanie. On y retrouve notre envoyé spécial Antoine Grenier. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On vous entend tout loin là dans ce tout nouveau stade de Tirana, les Albanais qui inauguraient donc ce soir cette nouvelle enceinte. Mais bon, la fête a été gâchée par les Bleus ce soir.
Oui, ça a été gâché par une très bonne équipe de France qui s'est imposée donc 2-0 ce soir sur des réalisations de Corentin Félixon et la 10e minute, coup franc d'Antoine Griezmann et le Munichois coupe au premier poteau, imparable. Et puis à la 30e, petit festival de Léo Dubois, titularisé à droite et qui se retrouve à gauche pour centrer pour Antoine Griezmann absolument tout seul. Sans problème, l'attaquant du FC Barcelone inscrit le but du 2-0. Des Français qui globalement n'auront absolument pas souffert face à cette équipe d'Albanie. Les Français qui auraient même pu marquer beaucoup plus, notamment en seconde période, avec Olivier Giroud par deux fois, et notamment à la 72e lorsqu'il touche le poteau droit du gardien albanais. Bref, une équipe de France qui finit en beauté ses éliminatoires avec un succès, on va le dire, largement maîtrisé au terme d'un match très très contrôlé, Eric.
Avec une ambiance un petit peu spéciale, notamment juste avant la rencontre.
Oui, la Marseillaise, l'hymne français, a été sifflée, copieusement sifflée par les supporters albanais. Alors peut-être n'avait-il pas pardonné aux Français de s'être trompés d'hymne, hein, vous vous en souvenez, au Stade de France lors du match aller de la victoire 4-1 de l'équipe de France. Les Français qui avaient fait jouer par erreur l'hymne d'Andorre. En tout cas, les supporters albanais ont donc complètement sifflé cette Marseillaise dans un stade flambant neuf, le Albania Stadium, construit en 3 ans entre 2016 et cette année. Était rouge de plaisir, mais qui, en tout cas au début de la rencontre, mais qui n'aura pas vibré pour cette toute première rencontre en son sein.
Merci Antoine Grenier, la ligne n'est pas très très bonne, on vous laisse. Victoire donc de la France en Albanie 2-0, même score pour la Turquie en Andorre. L'Islande s'est imposée 2-1 en Moldavie, résultat classement final de ce groupe H. La France première 25 points, la Turquie deuxième à deux longueurs. Ces deux nations donc iront à l'Euro 2020. Le nouveau maître du tennis, c'est un jeune grec de 21 ans, Stefanos Tsitsipas, vient de remporter le Masters de Londres, tournoi qui réunit cette semaine les 8 meilleurs joueurs du monde. Il a battu il y a une heure à peine l'Autrichien Dominic Thiem à l'issue d'une finale haletante. Le score 6-7, 6-2, 7-6 pour le 6e joueur mondial qui remporte le plus beau titre de sa jeune carrière. Arnaud Di Pasquale, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien joueur, ex-DTN du tennis français, alors on a assisté à un sacré combat, hein, plus de 2h30, une finale à suspense. Vous êtes régalé ce soir ?
Ouais, un régal, clairement, une finale somptueuse qui a clairement tenu ses promesses. On s'attendait vraiment à un très beau duel, un très beau combat. Beaucoup de suspense, un match en effet rebondissement. C'était intéressant justement de voir la dimension physique, mais la dimension mentale, hein, surtout dans ce match. On a vu à chaque fois, c'est vrai, Tsitsipas finalement prendre le dessus et se tendre peut-être très légèrement face à un Dominic Thiem toujours aussi conquérant, toujours aussi offensif. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, je pense, cette année, c'est qu'on a quand même les deux joueurs qui se retrouvent en finale sont certainement, sur ce Masters, sont certainement ceux qui ont le plus progressé cette année. Donc, c'est finalement pas un hasard quand on voit leur évolution dans leur jeu, dans tous les secteurs du jeu. Ils ont tous les deux énormément progressé. Dominic Thiem, qui était plutôt estampillé, joueur de terre battue, a déjà gagné des tournois sur dur cette année. Et un Tsitsipas qui, on s'en souvient, avait battu Federer en début d'année à l'Open d'Australie et qui finalement confirme tout au long de cette année. C'est presque l'année de la maturité pour lui, j'ai envie de dire, avec un joueur très jeune mais totalement décomplexé qui, lui, a vraiment envie de déloger le fameux Big Three.
Ce qui est impressionnant chez lui, c'est cette force mentale, vous en parliez, cette implication dans ce match et dans tous ses matchs d'ailleurs. Il est à fond tout le temps.
Il est à fond tout le temps et malgré les moments quand même très difficiles, très délicats, lorsqu'il est rejoint, il ne flanche pas, jamais. Il reste toujours très calme, même s'il y a quelques regards vers son clan, on sent peut-être un peu de tension parfois, mais il arrive à garder toujours son sang-froid un peu plus que les autres. Il a des qualités techniques hors normes quand même qui lui permettent évidemment de pouvoir rester relâché, de rester aussi très offensif, mais au-delà de son jeu justement agressif, il est aussi un excellent défenseur et c'est, je crois, aussi ce qui fait finalement la différence. Et oui, quand on voit cette progression, mais dans la dimension la mentale, hein, vraiment tout au long de l'année, on se dit que peut-être que ce sera prochainement lui, hein, le futur numéro un mondial, tout simplement.
Voilà, justement, Tsitsipas qui remporte le Masters à sa première participation. Il a battu cette semaine successivement Medvedev, Zverev et Roger Federer en demi-finale. On a l'impression qu'il est parti pour durer. C'est pas éphémère.
Il est parti pour durer. Alors, il va falloir faire un petit peu attention. Il y en a d'autres, hein, qui ont gagné lors de leur première participation. On se souvient justement de Grigor Dimitrov qui avait pour le coup un peu moins bien joué par la suite. Attention aussi à Zverev, hein, qui après sa victoire au Masters a pas confirmé non plus. Mais il me semble fait d'un autre bois. Enfin, un petit peu. Voilà, il me semble un peu différent, il me semble plus armé, plus outillé, vraiment mentalement. On a le sentiment qu'il est un petit peu au-dessus du lot, que rien ne l'atteint, rien ne le touche, qu'il est vraiment hermétique à tout ce qui peut se passer autour de lui et que son seul objectif est de progresser. L'objectif est clair dans son esprit, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je parle d'un joueur vraiment décomplexé qui l'affiche un peu plus que les autres encore, alors que ça peut-être donner parfois un joueur arrogant ou prétentieux, mais je crois qu'à ce niveau-là, on a besoin justement d'avoir un gros ego et de vouloir être numéro un, et c'est clairement son envie qu'il affiche, et ses progrès sont complètement en adéquation avec son discours.
Merci beaucoup Arnaud Di Pasquale. Et puis juste avant, le Masters de double avait vu la victoire d'une paire française. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le titre prestigieux. Ils complètent ainsi une belle collection riche déjà des 4 tournois du Grand Chelem. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, qui le champagne à peine avalé, vont sauter dans un avion direction Madrid pour y disputer cette semaine la Coupe Davis, nouvelle formule. Un nouveau format soutenu par l'ITF, la Fédération Internationale, qui a suscité beaucoup de polémiques depuis son instauration l'an dernier. Je vous en rappelle le principe, 18 nations au départ, rassemblées dans une seule ville, avec une compétition qui dure 7 jours, avec premier tour, quart de finale, demi et finale, enchaînées jusqu'à dimanche prochain. Chaque rencontre se joue désormais dans une même journée, avec 3 matchs au lieu de 5, des parties raccourcies au meilleur des 3 manches contre 5 auparavant. Une nouvelle recette à la sauce Gérard Piquet, le défenseur catalan est à l'origine du projet, avec son richissime groupe Cosmos. Mais est-ce que la mayonnaise va prendre? La Coupe Davis sera-t-elle un succès populaire? Premier élément de réponse avec Pierre Chaperon, notre correspondant à Madrid, est allé aujourd'hui tâter le terrain du côté de la boîte magique à la veille du coup d'envoi de la compétition.
Peinture fraîche et stand qui termine d'être monté. À 24 heures de la cérémonie d'ouverture, la Coupe Davis nouvelle génération est presque prête. Assez en tout cas pour laisser le public madrilène déambuler dans la Caja Marica, lieu habituel du Masters 1000 en mai au sud-est de la capitale espagnole. Malgré le mauvais temps et les températures basses, une habitude pour le mois de novembre ici, Raoul est venu avec femme et enfant découvrir les installations de cette compétition New Look et pouvoir, pourquoi pas, assister aux entraînements de l'Espagne.
Aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur Madrid. Tout le monde du tennis a les yeux rivés sur la ville de Madrid et comment elle va l'organiser. Cela nous procure un sentiment de fierté. J'aimerais bien sûr que l'Espagne l'emporte, c'est notre souhait. Mon fils aime le tennis et nous espérons voir Nadal à l'entraînement. Je crois que tout le monde attend le premier match. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Peu de gens le savent, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde.
Difficile encore de dire si le rendez-vous sera un succès populaire, si le public devrait répondre présent au match de l'Espagne. Pas sûr que ce soit le cas pour les 17 autres nations. Pourtant, Gérard Piqué, l'organisateur de la compétition, a multiplié les interviews dans la presse internationale, mais aussi et surtout espagnol. Le défenseur du Barça a payé de sa personne dans les émissions de sport, mais aussi dans celles de divertissement. Un Piqué qui n'a qu'une hâte, que le tournoi débute, comme il l'a expliqué sur la radio Cadena Copé.
Oui, je suis anxieux parce que c'est quelque chose de nouveau. J'ai eu plusieurs projets dans ma vie et là, c'est quelque chose de totalement différent. Je n'ai peur de rien, je crains peu de choses en général. Simplement, j'aimerais que ça commence maintenant. Nous nous sommes lancés dans ce projet il y a 3 ou 4 ans et le nouveau format a été approuvé il y a 1 an et demi. Je suis une personne très optimiste et ce sera génial.
Et les joueurs dans tout ça, le sentiment est le même. Loin des polémiques de cette nouvelle formule, Sébastien Grosjean, le nouveau capitaine de l'équipe de France, se veut très enthousiaste avant de débuter la compétition. Pour le Marseillais, il y a le même esprit qu'aux Jeux Olympiques avec ce format.
Oui, tout à fait, c'est très spécial, c'est unique. On voit toutes les nations au village. Mais voilà, il y a toujours cette fierté de pouvoir représenter son pays. On est là, on a envie d'être là. Je crois que l'ambiance est excellente. Les joueurs répondent présents. Ils ont joué, bien sûr, la Coupe Davis depuis la plupart, plus de 10 ans. Donc, il y a toujours ce privilège et l'honneur de jouer pour la France en Coupe Davis. Donc, il n'y a aucune personne qui a été forcée à venir ici. Ils sont venus avec envie, avec beaucoup d'énergie. La pression va monter. Ça a débuté hier avec le dîner officiel, la présentation demain et puis notre première rencontre mardi. Donc voilà, c'est en train de monter, ouais.
Nouvelle ère, même esprit, tel est le slogan de cette Coupe Davis nouvelle formule. Une formule qui va devoir plaire, elle qui n'a nourri pour le moment que les polémiques. Au-delà de la compétition sportive, c'est aussi auprès du grand public que cette sorte de Coupe du Monde de tennis va devoir convaincre. Sûrement le vrai défi de cette semaine à Madrid. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
L'équipe de France du capitaine Sébastien Grosjean sera dans le groupe A en compagnie de la Serbie et du Japon. Elle est composée de Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, de Benoît Paire et donc des duétistes fraîchement sacrés, Mahut et Herbert. Le plus jeune des deux, vainqueur de la Coupe Davis il y a 2 ans à Lille, qui se rend à Madrid un petit peu à contre-cœur. Écoutez Pierre-Hugues Herbert.
J'y vais avec forcément une déception de pas pouvoir jouer à la maison ou à l'extérieur, parce que c'était, enfin moi depuis que je suis gamin, c'est toujours ça qui m'a fait rêver, ces ambiances, cette pression qu'il peut y avoir, cette énergie que tu peux transformer sur le terrain, et je sais pas à quoi m'attendre. Donc je vais lui laisser forcément une chance. Je suis hyper fier et hyper heureux de représenter la France, et pour moi c'est une vraie joie de pouvoir jouer avec France dans le dos. Mais c'est sûr que je peux pas m'empêcher de penser à l'ex-compétition, j'ai pas envie de dire à mon ex, mais à toutes les magnifiques émotions qu'on a pu vivre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et c'est sûr que bah, pour ça, je suis extrêmement nostalgique de ça.
Voilà pour les Français et les tout meilleurs dans tout ça. Qu'en disent-ils ? Roger Federer avec la Suisse n'est pas qualifié, donc passons. En revanche, l'Espagne, oui, en tant que pays organisateur, et son leader Rafael Nadal a répondu présent. Heureusement d'ailleurs pour Gérard Piqué qui doit prier pour que l'équipe espagnole aille loin dans la compétition. Quant à Novak Djokovic, d'abord très hostile au nouveau format, il a curieusement changé d'avis dernièrement. Il défendra bien les couleurs de la Serbie cette semaine. En revanche, qui reste inflexible quant à son rejet total de cette nouvelle Coupe Davis, c'est le 7e mondial, Alexander Zverev. Malgré son jeune âge, 21 ans, il défend la tradition et rejette en bloc les 3 milliards de dollars sur 25 ans injectés par la société Cosmos de Gérard Piqué. Alexander Zverev.
Je ne pense pas qu'avec ce format, ce soit encore la Coupe Davis. La Coupe Davis est la compétition la plus historique du tennis, elle a plus de 100 ans. l'essence de la Coupe Davis, ce sont les matchs à la maison et à l'extérieur, c'est l'atmosphère d'une rencontre qui se déroule sur 3 jours avec de gros matchs en 5-7. Ça, c'est la Coupe Davis et non jouer dans une seule ville avec une compétition qui se décide en seulement une semaine. Ce n'est pas ça la Coupe Davis. La Coupe Davis est allée en Amérique du Sud ou en Australie, comme ça m'est arrivé avec l'ancienne formule. J'espère que les gens vont réaliser que cette épreuve est plus que l'argent qu'on peut nous offrir. C'est l'histoire du tennis. Oui, c'est bien plus que ce qu'on peut mettre sur la table pour les joueurs.
Pour compléter le tableau, ajoutons que l'autre entité du tennis, l'ATP, grande rivale de l'ITF, a créé elle aussi sa Coupe du Monde par équipe, l'ATP Cup. Elle se déroulera en Australie dans à peine un mois et demi et réunira 24 nations. Voilà qui ne va pas aider à une meilleure lisibilité du circuit tennistique. Coup d'envoi en tout cas de la nouvelle Coupe Davis demain à Madrid avec les matchs Russie-Croatie, Italie-Canada et Belgique-Colombie. La France affrontera le Japon mardi et la Serbie jeudi. Les vainqueurs des 6 groupes de 3 plus les meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale. On termine ce Mondial Sport avec vous Thomas de Saint-Léger avec du cyclisme en Afrique. L'édition 2019 du Tour du Sénégal s'est achevée ce dimanche à Dakar. Victoire finale d'un coureur rwandais.
Le très sympathique Didier Mbappé Munyaneza sous pression avant cette dernière étape sur le circuit de la Corniche Ouest. Il aura résisté jusqu'au bout aux assauts des coureurs allemands pour finalement conserver 9 petites secondes d'avance sur Hermann Keller à 21 ans. C'est son premier succès important sur un tour dont la qualité est assez fluctuante ces dernières années. Que vaut aujourd'hui la boucle sénégalaise ? Élément de réponse avec Babacar Fall.
Martin Frano connaît bien le Tour du Sénégal pour y avoir participé 2 fois en tant que coureur et aujourd'hui directeur sportif de l'équipe slovaque. Il note des améliorations.
Je vois les changements dans la Tour, très bon organisé. Aussi les mêmes choses comme ici. Aujourd'hui, les circuits fermés, c'était très très bien sécurisé et très très bien organisé. C'est le niveau d'organisation. Par exemple, c'est circuit, c'est comme les courses dans l'Europe. Et j'espère que aussi dans la future, les prochaines années, les courses vont améliorer.
Le journaliste Fantôme Adi Camara a couvert 16 fois l'épreuve en 18 éditions. Pour lui, le niveau technique n'est plus ce qu'il était.
Les débuts étaient meilleurs. Au début, le niveau était vraiment relevé. Il y avait de grandes équipes européennes, quoi, dont la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique. Sans compter les pays africains, bien sûr, comme le Burkina, le Cameroun qui était là, les Marocains, les Algériens, les Égyptiens, les Libyens. Il y avait beaucoup de pays quand même. Parce qu'en ce moment, il y avait aussi beaucoup de moyens.
Et l'indulgence de l'Union cycliste internationale, son représentant sur ce Tour du Sénégal 2019, le Portugais Claudio Guimarães, par ailleurs président du jury des commissaires.
On ne peut pas comparer le course en Afrique avec le course en Europe. Ce n'est pas la première fois que je suis en Afrique. Tu n'as pas les mêmes moyens et même l'organisation de la ville, ce n'est pas le même qu'en Europe. Donc, on va parler avec l'organisation et on va dire quelques points qu'on doit améliorer. Mais on a fait des très bonnes moyennes tous les jours. On a fait beaucoup de kilomètres. Nous sommes aux limites du kilométrage par jour permis pour une course cycliste. Donc ça veut dire que le niveau est très exigeant et le niveau des coureurs, ils ont bien travaillé.
Un Tour du Sénégal que les cyclistes sénégalais ont du mal à gagner depuis 10 ans. Jean Ousmane Sen est classé 19e au général. C'est parce qu'il a la chance de courir en France. En plus, par rapport à ses coéquipiers restés au pays et qui travaillent dans des conditions difficiles.
Là-bas, j'ai des compétitions à chaque week-end et on m'entraîne, on me fait des plans d'entraînement toutes les semaines et je mange bien, je dors bien. Donc voilà quoi. Je suis très content de ma performance et ça fait pas longtemps que j'ai commencé le vélo, donc voilà quoi.
L'innovation majeure de cette 18e édition du Tour du Sénégal, c'est le retour de la course en Casamance. Cela faisait plusieurs années que l'épreuve n'a pas traversé le sud du Sénégal. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Avant de se quitter, un petit mot de Formule 1. Le Grand Prix du Brésil a été remporté tout à l'heure par le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull. Il a devancé un Français, Pierre Gasly, sur Toro Rosso 3e, l'Espagnol Carlos Sainz au volant d'une McLaren. Voilà, un grand merci à Fabrice Violet et à Jean-Philippe Thurie qui assure la réalisation de ce Mondial Sport que vous pouvez retrouver sur Internet, bien sûr. Bonne soirée.
Appelez-nous, exprimez-vous.